Mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir. Vous êtes en compagnie des neveux de René. Chemin de pensée, une émission dédiée à la découverte des textes de la philosophie. Vous êtes en compagnie de Nicolas Lemoine, Sylvain Contasso-Vivier et Nazim Fattès. Alors nous allons donner la parole à Nicolas Lemoine qui va nous faire un résumé de la séquence précédente puisque nous allons maintenant passer à un autre philosophe. Alors Nicolas, peut-être tu peux nous rappeler le chemin que nous avons parcouru lors des dernières émissions.
Avec le Gorgias de Platon, nous avons, par un questionnement sur la rhétorique, c'est-à-dire sur l'art de bien parler, nous avons abordé la question de la justice. Si Socrate rejette la rhétorique, ce n'est pas parce qu'elle est un art de combat, mais c'est parce qu'elle est une contrefaçon de la justice et de fait brouille l'idée même du bien et du beau, ce qui est inacceptable pour Socrate. Mais qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le bien? Le bien est-il équivalent au plaisir? La justice est-elle la loi du plus fort? À travers ce questionnement, les dialogues du Gorgias nous font découvrir l'exigence du cheminement philosophique. Exigence de précision du sens des mots qu'on emploie, l'exigence de précision du raisonnement, et de ce point de vue, nous avons lu des extraits où Platon présente un raisonnement mathématique utilisant la logique binaire avec toutes les limites de ce genre de raisonnement. Par exemple, le plaisir et la souffrance s'excluent-ils mutuellement? Et puis enfin, l'exigence du dialogue qui permet de croiser les regards sur les idées pour vérifier que l'on a bien vu. Si l'adversaire refuse le dialogue, on ne peut plus avancer. Peut-être est-ce pour cela que le Gorgias finit sur un mythe. La question de la justice est loin d'être épuisée. Platon y reviendra dans la République, et nous-mêmes aborderons un jour cette œuvre.
Merci Nicolas. En effet, il est impératif pour nous que nous nous frottions à la République ou la Politeia, pour l'appeler de son nom de Platon. Nous reviendrons donc sur le terrain de la Grèce antique. Mais nous allons cette fois-ci quitter la Grèce antique et découvrir un nouveau philosophe d'actualité d'une certaine façon. Alors je vais donner la parole à Sylvain qui va nous lire un texte qui présente un personnage.
Il y avait un homme qui, à 12 ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques. Qui, à 16, avait fait le plus savant traité des coniques qu'on eût vu depuis l'Antiquité. Qui, à 19, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement. Qui, à 23, démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air et détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique. Qui, à cet âge où les autres hommes commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s'aperçut de leur néant et tourna ses pensées vers la religion. Enfin, qui, dans les courts intervalles de ses mots, résolut par distraction un des plus hauts problèmes de la géométrie et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du Dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal.
Merci Sylvain. Alors, ce texte est un texte de Chateaubriand. Et il est cité par Jean Beaufré dans son livre « Dialogue avec Heidegger », le tome 2, paru aux éditions de Minuit. Et ce texte, qui s'appelle « Pascal savant », est remarquable à plus d'un titre et nous a convaincus que nous devions commencer nos émissions sur Pascal par décrire ce Pascal savant. Et donc, nous comptons consacrer deux émissions à discuter l'aspect scientifique, mais à l'époque on ne disait pas encore scientifique, de Pascal. Alors il y a une raison pour ça, c'est qu'il n'y a pas d'actualité de la philosophie. La philosophie se présente comme une discipline intemporelle. Enfin, Nietzsche parle d'intempestif ou de non actuel. Mais il y a toujours une actualité de la philosophie dans la mesure où il y a une parution de livres, il y a des expositions, il y a des choses qui se font, il y a des polémiques parfois aussi. Et actuellement, il y a une exposition à la Bibliothèque nationale de France sur Pascal, une exposition où des manuscrits très rares, donc le manuscrit des pensées et aussi ce qu'on appelle le mémorial, c'est-à-dire le manuscrit où Pascal a consigné ce qui pourrait s'appeler une expérience mystique, qu'il a cousu dans la doublure de son manteau, je crois, qu'il avait toujours avec lui. Donc, ce sont des documents très rares qu'on ne voit quasiment jamais, qui sont actuellement dans une exposée à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Et si nos auditeurs peuvent y aller, ben c'est le moment. Il faut le faire vite puisque ce n'est que jusqu'au 28 ou 29 janvier que cette exposition a lieu. Voilà. Alors, peut-être pour commencer par découvrir les textes de Pascal Savant, nous pouvons nous attaquer à un texte qui est la préface au Traité du vide. Alors ça se trouve dans un livre qu'on peut se procurer dans n'importe quelle librairie et qui s'appelle « De l'esprit géométrique ». Alors, il faut se méfier des titres de livres, hein, puisque de l'esprit géométrique, ce n'est pas Pascal hein, qui a donné ce livre-là. C'est un texte, c'est un mot d'éditeur. Donc, c'est paru aux éditions Garnier-Falamarion. Si les auditeurs peuvent se procurer les œuvres complètes de Pascal, évidemment, c'est beaucoup mieux. Voilà, si on ne peut pas se procurer cette édition des œuvres complètes, on trouvera ça dans ça se trouve assez facilement chez Garnier Falamarion. Alors, qui souhaite lire le début de ce texte, Sylvain, Nicolas? Je vais bien faire.
Le respect que l'on porte à l'Antiquité est aujourd'hui à un tel point, dans les matières où il doit avoir moins de force, que l'on se fait des oracles de toutes ses pensées et des mystères même de ses obscurités. Que l'on ne peut plus avancer de nouveautés sans péril, et que le texte d'un auteur suffit pour détruire les plus fortes raisons. Ce n'est pas que mon intention soit de corriger un vice par un autre, et de ne faire nulle estime des anciens, parce que l'on en fait trop. Je ne prétends pas bannir leur autorité pour relever le raisonnement tout seul, quoique l'on veuille établir leur autorité seule au préjudice du raisonnement. Pour faire cette importante distinction avec attention, il faut considérer que les unes dépendent seulement de la mémoire et sont purement historiques, n'ayant pour objet que de savoir ce que les auteurs ont écrit. Les autres dépendent seulement du raisonnement et sont entièrement dogmatiques, ayant pour objet de chercher et découvrir les vérités cachées.
Merci. Alors, quel est le rapport qu'on peut avoir? Alors, donc ici, Pascal nous parle de l'Antiquité, du respect des anciens. Le premier mot qui est donné de ce texte, c'est le respect. Le respect que l'on porte à l'Antiquité étant aujourd'hui à tel point. Donc à tel point, ça veut dire élevé à tel point, dans les matières où il doit avoir le moins de force, que l'on se fait des oracles de toutes ses pensées et des mystères même de ses obscurités. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que Pascal essaye de nous dire ici?
Pour une fois, Pascal est assez d'accord avec René Descartes, qui souhaitait se débarrasser de toutes les connaissances qu'on lui avait fait rentrer dans le crâne pour pouvoir retrouver une connaissance vraie à partir d'un raisonnement ou d'un raisonnement sûr. Pascal est en train de dire, c'est pas parce que Aristote ou Hippocrate ont écrit des choses qu'on ne peut pas avoir un regard critique sur ce qu'ils ont écrit.
Alors, quel est le rapport entre ce que tu viens de dire, Nicolas, et une préface au traité du vide? Si aujourd'hui quelqu'un écrit une matière scientifique, il ne s'embarrassera jamais à parler des anciens. Au contraire, je veux dire, ce serait se ridiculiser que de parler d'Aristote si quelqu'un écrit un traité scientifique sur un sujet aujourd'hui.
Eh bien, justement, c'est que l'approche traditionnelle de la scolastique était des raisonnements fondés sur, quelque part, une raison pure et sur la tradition.
Alors, peut-on définir ce mot de scolastique? Parce que tu viens de prononcer un gros mot. Dominique Herfelding, qui est à la technique, souvent nous dit « Attention, lorsque vous prononcez un gros mot, si je puis dire, métaphysique, il faut le définir. » Alors, essayons de définir la scolastique. Alors,
c'est moins métaphysique qu'institutionnel, puisque scolastique, ça veut dire de l'école.
Oui.
Donc, c'est toute la pensée qui s'était développée dans le cadre des universités de la chrétienté à partir de la fondation des universités, donc vers Au Moyen-Âge. Oui. Oui.
Alors, peut-être ce qui est remarquable dans la scolastique, c'est que quelque chose s'est figé.
Pour compléter, c'est basé justement sur beaucoup sur la pensée d'Aristote, notamment.
Oui. Et en ça, c'était des choses bien établies avec des rituels, un mode de pensée. Et donc, parce que Aristote a décrit comment bien penser finalement, ou comment bien construire un discours, comment bien argumenter. C'est de ça dont il s'agit.
Oui, enfin pas que, parce que là, par exemple, pour l'affaire qui occupe Pascal, c'est surtout des choses qu'a dites Aristote sur la constitution même du monde, hein, notamment sur la pensée que la nature a horreur du vide.
Ah oui, alors donc ça c'est un dogme qui doit apparaître dans ce texte qu'on appelle la physique d'Aristote, je suppose, en fait il faudra qu'on le lise ensemble aussi. Mais attention, dans le mot physique, il faut entendre non pas la physique telle qu'elle se fait aujourd'hui dans nos universités, hein, Nicolas, tu es professeur de physique, mais c'est pas du tout ça qu'Aristote, c'est la nature, c'est physis.
Mais la physique, c'est l'étude de la nature, c'est une science naturelle.
Eh bien non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. on y reviendra à cette question. Là, je m'oppose fortement à ce que tu viens de dire, Nicolas. La physique aujourd'hui que toi tu enseignes. On a tous étudié la physique sur les bancs de l'école, ce n'est pas l'étude de la nature. C'est l'étude d'une nature particulière, avec des outils particuliers et une façon de faire particulière.
Oui. Mais l'objet, c'est quand même bien la nature, c'est pas des choses abstraites.
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... prenons le poète qui étudie la nature. Prenons quelqu'un qui va écouter le chant des oiseaux et qui se dit « je veux en faire un poème ». On ne dira pas de lui qu'il est physicien. Les Grecs, eux, n'auraient pas eu du mal à appeler un tel être un physicien. Aujourd'hui, on ne dira jamais que c'est un physicien.
Il est dans une attitude contemplative, pas...
Oui, il est plus basé sur les émotions.
Oui, mais vous voyez, ces choses-là n'étaient pas si claires avant.
Oui, il y avait moins de séparation. Oui.
Et si on s'appelle les neveux de René, c'est justement qu'il y a un tournant cartésien. Voilà. Alors, on va essayer d'explorer ce tournant cartésien, et je crois que Pascal est en plein dedans.
Pour revenir à la question du vide, donc, dans l'Antiquité, il y avait deux grandes écoles qui s'opposaient. L'école atomiste avec Démocrite, qui considérait la matière comme étant faite de quantités insécables, élémentaires, qu'il avait appelées atomes. Et donc ces atomes bougeaient de manière anarchique dans le vide. Et puis à côté de ça, donc il y avait ceux qui refusaient cette idée de discontinuité et donc décrivaient la matière comme étant un milieu continu, et donc sans aucun vide au milieu de la nature. Le vide ne peut pas exister.
Alors, quel est le rapport avec Pascal ? Pourquoi Pascal dit-il finalement qu'il faut se détacher de ce dogme des anciens, de la nature qui a horreur du vide ? Quel est son apport ? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il prend déjà autant de précautions avant d'écrire son texte ? Et quelle est l'expérience qui va le rendre célèbre ?
Au niveau des précautions, déjà, on peut rappeler que ce qu'il dit là, c'est après les procès, notamment celui de Galilée, hein, concernant la position du monde, enfin l'ordre céleste, hein, si on peut dire, au niveau des astres et des trajectoires, etc., des interactions entre les planètes. Donc, bon, on sait que Galilée, lui, a été condamné. Donc, on voit que...
Enfin, il a échappé à la condamnation parce qu'il a dû se rétracter.
Oui, enfin, il a accepté de se rétracter. Hein, donc, voilà. Sinon, il était condamné.
Oui.
Donc, et d'ailleurs, Descartes aussi fait preuve de beaucoup de prudence à chaque fois qu'il commence à expliquer qu'il va remettre en cause certaines choses. Donc, on voit bien qu'à l'époque, on va dire que la remise en cause de ce qui est admis... est très difficile. Et très difficile politiquement, parce que ça remet en cause aussi la théologie qui est en place à l'époque.
Alors, aujourd'hui, on a du mal à saisir en quoi le vide, qui est une question donc d'ordre physique, hein, parce que on peut peut-être rappeler l'expérience qui suscite l'interrogation. Mais juste avant de la rappeler, on a du mal aujourd'hui au XXIe siècle à voir quel rapport il peut y avoir entre des histoires de colonnes d'eau qui montent pas plus de 10 mètres ou des colonnes de mercure avec quelque chose de théologique. Ça nous choque. Alors Nicolas, peut-être tu peux nous donner quelques éclairages physiques ou d'abord rappeler quels étaient le contexte de cette époque. Pourquoi au XVIIe siècle on s'interroge sur cette question du vide?
Alors ça tout part d'Italie. Donc il y avait des fontainiers à Florence, donc des gens qui doivent construire un système de tuyaux pour amener l'eau jusqu'à des fontaines. Et donc qui avait remarqué que avec le meilleur système de pompage qui soit, on pouvait pas faire monter une colonne d'eau à plus d'une dizaine de mètres au-dessus de du réservoir.
Alors juste une précision, il s'agit de pomper par
aspiration, c'est voilà, ça oui. Oui, tout à fait, bien sûr. De pomper par aspiration, c'est-à-dire qu'on fait quelque part le vide, hein, on voilà. dirait aujourd'hui.
Voilà.
Et donc l'eau monte, et donc toute la question c'est d'expliquer pourquoi l'eau monte. Et pourquoi elle ne monte pas au-delà d'une certaine hauteur, hein, parce que ce qu'on disait, c'est que si l'eau monte, c'est parce qu'on fait le vide, justement, que la nature ayant horreur du vide, l'eau monte pour combler ce vide. Mais alors, le fait polémique, dirait Bachelard, si tu me permets cet anachronisme, c'est que elle a horreur du vide, mais comme dirait Galilée, jusqu'à un certain point.
D'accord. Donc, je vous propose de faire une petite pause musicale et ensuite on viendra à essayer d'éclaircir ce mystère de l'eau qui veut pas monter plus qu'une certaine hauteur de 10 mètres et quelques pieds. Vous êtes en compagnie des neveux de René et nous étions à l'écoute de l'ensemble vocal Castella qui est à Château-Thierry et qui chantait une chanson de Guillaume Costelet, Quand le berger vit la bergère. Voilà. Alors nous revenons à Pascal et à ce problème donc de science qui est pourquoi lorsque je pompe l'eau pour faire une belle fontaine à Florence, l'eau ne monte pas plus qu'une certaine... Et que je pompe l'eau par le vide, hein, par en faisant le vide, je n'arrive pas à monter l'eau plus qu'une... Alors, effectivement...
À Florence ou ailleurs, parce que c'est une expérience universelle, en fait. Elle ne dépend pas du lieu où on l'a fait.
Alors, ouais, effectivement, ça marche. Mais il se trouve que c'est à Florence que l'eau ne voulait pas monter.
C'est ça. Ouais. On a pu le constater ailleurs.
Pourquoi, à cet endroit-là et aussi ailleurs, l'eau ne voulait pas monter? Quelle est la clé du mystère et quel est le rôle que va avoir Torricelli dans tout ça?
Alors, il y avait des gens qui s'étaient convaincus que l'air était pesant. Alors ça, évidemment, ça allait complètement contre Aristote, puisque Aristote considérait qu'il y avait des corps pesants, qui avaient rapport à l'élémentaire et qui étaient attirés vers leur élément, c'est-à-dire vers le centre de la Terre, hein, puisque la Terre, centre du monde, était une sphère, et donc les corps pesants étaient attirés vers le centre. Et il y avait par ailleurs des éléments légers qui, eux, étaient attirés vers la sphère céleste, puisqu'ils étaient attirés vers leur élément. Et puis après, s'il y avait différents, il y avait des corps plus ou moins pesants, plus ou moins légers. Et s'il y avait un mélange, ils s'organisaient, les plus légers se rapprochaient le plus de leur élément et les plus lourds du leur. Et donc il y avait une certaine stratification qui apparaissait. Alors face à ça, Torricelli, lui, va dire, ben non, l'air c'est, il est aussi attiré vers le bas. Simplement, il est moins attiré que d'autres corps parce qu'il est plus léger, mais il est quand même attiré vers le bas. Il exerce une pression sur le liquide. Et donc ça, le souci, c'est que il faut remettre en cause Aristote. Et Aristote, c'est ce que dit Pascal là dans l'extrait que nous avons lu. C'était la référence. Et on n'avait pas encore acquis le fait que s'il y avait donc une contradiction entre deux raisonnements, il fallait choisir l'expérience comme juge de paix. Et c'est ce que va faire Pascal. Donc il va concevoir une expérience qui va consister donc à prendre non pas une colonne d'eau, parce que c'est quand même un peu encombrant pour faire une manip, mais une colonne de mercure, parce que le mercure c'est un métal liquide et qui est beaucoup plus dense. Donc sa colonne, elle monte que de à peu près 760 mm.
Donc 76 cm.
C'est ça. Et donc il va embaucher son beau-frère. Qui va donc faire des mesures.
C'est Monsieur Perrier.
Monsieur Perrier, c'est ça, oui. Qui va aller faire donc
Qui est Auvergnat.
Et qui est Auvergnat, oui, bien sûr, oui. Donc vous avez donc en fait une sorte de baromètre à mercure, c'est-à-dire que vous avez un réservoir de mercure qui est en contact de l'air ambiant, donc qui a pression atmosphérique. Vous avez donc un tube en U. Et de l'autre côté du tube en U, donc d'un côté ce réservoir de mercure, de l'autre côté une colonne qui est fermée par le haut et dans laquelle monte donc la colonne de mercure jusqu'à ce qu'on arrive au ménisque, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle puisse plus monter plus haut. Donc vous avez le verre avec quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a dans cet espace au-dessus du ménisque, donc au-dessus du mercure.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un ménisque ?
Un ménisque, donc c'est une interface entre deux milieux qu'on voit à l'œil.
Et c'est quelque chose de courbe, c'est ça?
Alors que c'est courbe
souvent,
en général,
c'est courbe.
Surtout dans un tube.
Surtout dans un tube, parce que l'eau qui est dans un tube, elle n'est pas plate. Là, près des parois, elle est attirée, et donc elle remonte un peu plus.
On n'ira peut-être pas dans le détail des lois de Jurin.
D'accord, non, on va pas aller là-dessus. Là, tu parles un langage que j'ignore. Voilà. Mais effectivement, mais en tout cas, je crois qu'on a, on a été à l'école, on a fait des expériences avec des tubes à vide, là, comment ça s'appelle, des tubes à essai, et donc on sait que le ménisque n'est pas droit. Quoi.
Oui, oui.
Voilà.
La colonne de mercure est sa hauteur limite, c'est-à-dire la hauteur au-dessus de laquelle on ne peut plus la faire monter. Et donc on va mesurer cette hauteur de mercure en bas du puits de Dôme, on va la mesurer en haut, on va redescendre, et on va constater qu'à une altitude donnée, pour un jour donné, on retrouve la même hauteur, en bas à Clermont-Ferrand. Et la même et une autre hauteur en haut du puits de Dôme. Et quand on fait l'expérience plusieurs fois, c'est systématique. La hauteur de mercure est toujours plus basse en haut du puits de Dôme que en bas. Et ça, donc Pascal avait conçu cette expérience parce qu'il savait que la densité de l'air en hauteur était plus faible que la densité de l'air en bas. Alors, et donc il savait que il était convaincu des idées de Torricelli, donc il était convaincu que la pression exercée par l'air sur la colonne de liquide, de liqueur comme on disait à l'époque,
oui,
était plus forte donc en bas que en haut d'une montagne.
D'accord.
Et donc sa conclusion, parce que ce qui est important c'est la conclusion, c'est pas tout sur l'expérience, c'est les conséquences qu'on en tire. Si l'horreur du vide est pertinent. L'idée de l'horreur du vide est pertinente pour décrire ce qu'on observe, alors ça doit être une loi universelle. Or, ici intervient une chose que ne maîtrisait pas du tout Aristote, c'est l'idée de quantification. Et c'est un peu un tournant scientifique. On commence à faire des mesures quantifiées, on commence à faire de la science. Et l'horreur du vide, ça doit être quelque chose d'universel. Ça doit être quelque chose d'universel, et donc ça ne peut pas dépendre de l'altitude.
D'accord. Donc, en fait, ce que tu nous dis, Nicolas, c'est que Pascal, et là je crois qu'il y a une controverse parce que cette idée-là, on dit que, enfin Descartes lui aurait suggéré d'une certaine façon, mais ce que tu dis c'est que la quantification va changer notre regard sur le monde et finalement pendant les siècles, il y a quelque chose qui s'était figé dans la façon de regarder le monde avec cette scolastique, et il y a quelque chose qui va dynamiter finalement au XVIIe siècle et qui va vraiment nous engager nous-mêmes dans une période dite moderne.
Et ce qui est intéressant avec Pascal, c'est que justement il montre toute la force de l'expérience pour arriver à la vérité en fait.
Alors une question que je voudrais poser, à vous poser, et puis en guise de conclusion y réfléchir, c'est finalement, il dit, le respect que l'on porte aux anciens à tel et tel, était à ce moment-là un très haut degré, est-ce que depuis ça ne s'est pas inversé? Est-ce que depuis maintenant on n'a plus maintenant aucun respect des anciens, et en science, hein, y compris en science, c'est-à-dire est-ce qu'on ne vit pas dans une situation curieuse où maintenant faire référence au passé en termes de science est quelque chose de révolu? Lorsque nous écrivons des articles scientifiques aujourd'hui, on ne prend que ce qu'on a gardé des anciens, c'est-à-dire les équations. Voilà. Je pense que c'est drôle, hein, parce qu'il y a une sorte d'inversion qui s'est passée. Alors peut-être que maintenant il faudrait réfléchir à ce que le balancier n'a pas été trop loin dans l'autre sens. Merci donc à Dominique Kerpelding sur la technique. Je laisse les auditeurs méditer sur ces questions-là, et je les invite à lire la suite de la préface au traité du vide, et nous verrons que c'est un Pascal enthousiaste qui s'y présente, et nous continuerons à discuter de ce texte la semaine prochaine. Au revoir